Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Dès le début de ce journal, nous partirons pour Valence en Espagne où débarquent en ce moment les premiers des 629 migrants refusés par l'Italie et finalement accueillis en Espagne où nous le verrons, le volontarisme affiché par le nouveau gouvernement socialiste n'est pas apprécié par tous les Espagnols. Des enfants migrants séparés de leurs parents par milliers, c'est à la frontière cette fois entre le Mexique et les États-Unis où la polémique enfle sur les conséquences de la politique de tolérance zéro voulue par Donald Trump. Polémique enfin en France sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur 40% de notre réseau routier. Le décret très impopulaire a été publié au journal officiel ce matin. Il entrera en vigueur le 1er juillet. Ils viennent donc de poser le pied sur le sol européen. Les premiers des 629 migrants secourus il y a plus d'une semaine déjà en Méditerranée par l'Aquarius commencent à être pris en charge dans le port de Valence. L'Aquarius lui-même n'est pas encore à quai, mais le bateau des gardes-côtes italiens l'a devancé. La fin de 9 jours d'errance en mer que vous suivez pour nous depuis Valence, Yann Gallic.
Un premier bateau avec 274 migrants à bord, dont une soixantaine de mineurs, est entré dans le port de Valence vers 7h ce matin. Il s'agit du Datilo, l'un des deux navires de la marine italienne qui accompagne l'Aquarius. Le reste de la flottille devrait débarquer dans les prochaines heures. Les migrants commencent à descendre à terre. Ils sont immédiatement pris en charge par les ONG et notamment les médecins de la Croix-Rouge, vêtus de combinaisons. Ils procèdent aux premiers examens médicaux et apportent les soins d'urgence aux migrants qui en ont le plus besoin. Au total, près de 2300 personnes sont mobilisées ici pour accueillir tous ces exilés, évidemment très éprouvés par leur traversée. De nombreux policiers, des juristes, des traducteurs et des centaines de bénévoles. Les migrants recevront une trousse humanitaire avec des affaires de toilette, quelques vêtements, mais également du lait pour les nourrissons, car il y a des bébés à bord de ces bateaux. Ils seront ensuite répartis, ces migrants, en plusieurs groupes en fonction de leur situation. Les malades et les blessés seront transportés vers les hôpitaux de la région. Les autres devraient rejoindre des hébergements temporaires. Aujourd'hui, la ville de Valence affiche sa solidarité avec les migrants. Sur le port, une large banderole a été déployée avec cette inscription en plusieurs langues. Soyez les bienvenus chez vous.
Yann Gallic, envoyé spécial de France Culture à Valence, merci à vous. Le nouveau gouvernement socialiste de l'Espagne, on le voit, a saisi là une occasion d'affirmer sa politique volontariste en matière de migration. Il entraîne un élan de solidarité, c'est vrai, mais aussi pas mal de critiques à droite. On voit ça depuis Madrid avec Marie-Hélène Ballestero.
200 communes et une douzaine de régions espagnoles se sont portées volontaires pour se répartir les migrants de l'Aquarius. Mais il y a eu aussi des voix discordantes, notamment au sein du conservateur Parti Populaire, mettant en garde contre un effet d'appel. Des voix qui se sont élevées également pour critiquer d'autres mesures annoncées cette semaine par le nouvel exécutif socialiste espagnol. Jeudi, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a annoncé qu'il allait tout faire pour que les barbelés des barrières des enclaves africaines de Ceuta et Melilla soit retirée. Vendredi, la porte-parole du gouvernement de Pedro Sánchez, Isabel Cela, a expliqué que le caractère universel du système de santé publique serait récupéré afin d'assurer la couverture des soins des personnes en situation irrégulière. Autant de mesures qui ravissent beaucoup d'Espagnols, mais qui sont dénoncées par tous ceux qui redoutent l'effet d'appel, d'autant que depuis vendredi dernier, près d'un millier de migrants sont arrivés dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à bord d'embarcations de fortune.
Marie-Hélène Ballestero, et j'ajoute qu'en Italie, par contre, le ministre de l'Intérieur et leader d'extrême droite, Matteo Salvini, campe sur ses positions. Hier encore, il interdisait à deux navires humanitaires battant pavillon néerlandais d'accoster en Italie après avoir recueilli des exilés au large des côtes libyennes. Et puisque décidément ces questions migratoires semblent partout s'inviter au cœur des débats politiques, nous partons à présent aux États-Unis où le malaise est de plus en plus profond à la frontière avec le Mexique. Là-bas, conséquence directe de la politique de tolérance zéro envers les clandestins mexicains, 2000 enfants ont été séparés de leurs parents sans papier ces 6 dernières semaines. Les démocrates américains crient à l'inhumanité et ils vont déposer cette semaine une loi pour interdire la séparation des familles immigrantes. Précision depuis Washington avec Pauline Simonet.
Ils sont logés dans des tentes à la frontière mexicaine ou dans un ancien supermarché du Texas. Les centres de rétention pour mineurs sont débordés. Au total, près de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents sans papier entre mi-avril et fin mai, selon les chiffres du ministère de la Sécurité intérieure. Une situation qui suscite l'indignation, notamment de l'opposition. Nancy Pelosi est la chef des démocrates à la Chambre.
Ils utilisent des enfants, même de tout petits enfants, à des fins politiques. C'est honteux.
Tout en revendiquant sa politique de tolérance zéro visant à décourager les clandestins, le président a encore accusé ce week-end les démocrates d'être responsables de la situation car ils ont refusé de signer un compromis sur l'immigration. Mais le malaise est palpable également au sein du Parti républicain. Le chef de la majorité à la Chambre, Paul Ryan, veut légiférer sur cette question sensible.
Nous pensons qu'il faut régler le problème par une nouvelle loi. C'est une décision de l'administration qui a causé cette situation, donc il faut légiférer. Nous pensons que ce n'est pas bien de séparer les enfants de leurs parents, que ce soit bien clair.
Paul Ryan et l'aile modérée des Républicains vont présenter la semaine prochaine un texte qui interdit la séparation des enfants et de leurs parents. Mais le texte prévoit également de débloquer 25 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière. Les débats risquent d'être houleux. L'aile dure du parti a prévu de présenter un texte concurrent.
Pauline Simonet, Amérique du Sud à présent et ce deuxième tour d'élection présidentielle ce dimanche en Colombie s'y affronte l'ex-maire de Bogota, candidat de la gauche radicale et ancien membre d'un mouvement rebelle, j'ai nommé Gustavo Petro, et face à lui le conservateur Ivan Duque qui a promis, s'il est élu ce soir, de revenir sur les accords de paix avec la guérilla des FARC, accord signé l'an passé et qui avait valu le prix Nobel de la paix au président sortant de Colombie, Juan Manuel Santos. Au Nicaragua, la journée d'hier devait être placée sous le signe de la pacification après 2 mois de manifestations contre le président Ortega et des violences qui avaient fait au moins 170 morts. Au final, le processus de négociation engagé par les deux partis est fragilisé par de nouveaux affrontements dans la capitale Managua qui ont fait 8 victimes. Les pourparlers sous médiation de l'épiscopat de Managua doivent reprendre demain. 9h06 sur France Culture, la réprobation toujours vive d'une majorité de Français n'y aura rien changé. C'est bien ce 1er juillet que va entrer en vigueur l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires. 400 000 km de national, de départemental sont concernés. Le décret signé vendredi par Édouard Philippe a été publié ce matin au Journal officiel. Stéphane Robert.
Depuis des mois, les manifestations s'enchaînent contre cette mesure qui suscite la désapprobation de 3/4 des Français. Les motards sont en première ligne dans cette affaire, mais les associations d'automobilistes également continuent à réclamer l'abandon de cette mesure. Et les opposants ont tout tenté pour essayer d'infléchir la position du Premier ministre, notamment avec cette proposition de laisser la possibilité aux acteurs locaux, aux maires, aux présidents de département, aux préfets, le soin de déterminer au cas par cas, en fonction de sa dangerosité, quel tronçon de route doit faire l'objet d'une réduction de la vitesse à 80 à l'heure et quel autre non. Mais rien n'y a fait, Édouard Philippe reste intransigeant. La réduction s'appliquera sur toutes les routes, à double sens et sans séparateur central. Seule concession faite par Emmanuel Macron, on va expérimenter cette réduction de la vitesse à 80 km/h pendant 2 ans. Et si on n'observe pas de réduction du nombre de morts sur les routes, on abandonnera la mesure. En attendant, elle entrera bel et bien en vigueur le 1er juillet prochain, mais elle apparaît coûteuse politiquement, car elle accentue cette idée dans les campagnes que cette décision est prise par des énarques parisiens qui ne connaissent rien à la réalité du terrain. Qu'à cela ne tienne, répond-on dans les ministères, à chaque fois qu'on a adopté une restriction concernant l'automobile, que ce soit avec le 50 à l'heure dans les centres-villes ou avec le port de la ceinture de sécurité, ça a généré des levées de boucliers. À terme, pourtant, la sécurité sur les routes s'en est trouvée renforcée.
Quelques heures de tollé et d'indignation hier auront eu raison des 4 millions d'euros de primes que l'ex-PDG de Carrefour voulait s'octroyer pour son départ. Rémunération choquante selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire et Georges Plassat qui renonce donc à cette prime de non-concurrence qu'il devait toucher. D'autant plus douteuse cette prime qu'il a 69 ans et arrive à l'âge de la retraite obligatoire. Georges Plassat conserve tout de même ses 10 millions d'euros d'indemnité de départ. La grève à la SNCF, première séquence de 2 jours, a depuis le vote définitif de la réforme ferroviaire aujourd'hui et demain. Cette grève sera donc demain au premier jour des épreuves du baccalauréat général. La CFDT et l'UNSA appellent leurs cheminots à ne pas faire grève pour ne pas gêner les épreuves. Dans le Parisien dimanche, la ministre des Transports Elisabeth Borne fustige la grève politique selon elle menée par la CGT et Sud, non plus pour défendre les droits des cheminots selon la ministre, mais pour contester globalement la politique du gouvernement. Un soleil voilé, mais un soleil tout de même dominant dans le ciel de ce dimanche. Des éclaircies vont se tailler la part belle sur l'ensemble du territoire. Pour les températures, prévoyez de 15 à 25 degrés ce matin du nord au sud, de 17 à 28 degrés cet après-midi d'ouest en est.